Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on explore une publication scientifique qui s'intéresse de très très près à l'héparate sulfate, la HS. Ces longues chaînes de sucres un peu complexes qui recouvrent nos cellules. Elles jouent des rôles vraiment clés, par exemple.
Oui, elles régulent plein de choses, la communication entre cellules, les interactions avec des facteurs de croissance.
Exactement.
Et comprendre leur structure, leur forme en 3D, c'est fondamental. C'est ça qui dicte comment elles fonctionnent.
Mais c'est compliqué, non? Elles sont très variées, si j'ai bien compris.
Ah oui, c'est un vrai casse-tête, cette hétérogénéité. Justement, l'étude utilise une technique très puissante, la résonance magnétique nucléaire, la RMN.
La RMN.
C'est un peu comme une IRM, si on veut, mais pour les molécules. Ça nous dit où sont les atomes, comment ils interagissent.
D'accord. Donc le but ici, c'est de voir comment des toutes petites modifications chimiques...
C'est ça.
Par exemple, ajouter un groupe sulfate ici ou là, ou même remplacer un atome d'oxygène par du soufre.
Oui.
Comment tout ça, ça change la forme 3D de ces sucres? C'est un peu ça l'idée.
C'est tout à fait ça. Voir comment changer une petite pièce affecte toute la machine, en quelque sorte. Et pour simplifier un peu les choses, les chercheurs ont travaillé sur des fragments d'héparine. C'est une cousine de l'HS, très proche, mais plus facile à obtenir et plus homogène. Un bon modèle, quoi. Et aussi sur des versions synthétiques modifiées.
D'accord. Alors commençons peut-être par l'effet de la sulfatation, cet ajout de groupe sulfate.
Oui. Alors l'étude confirme ce qu'on savait déjà un peu. L'endroit où on met le sulfate, ça compte énormément.
Ah oui?
Bah oui. Par exemple, si on ajoute un sulfate sur une position bien précise, le carbone C6 d'un des sucres, le GLCN,
d'accord.
Les changements de forme, ils sont très locaux. Ça bouge juste autour de ce sucre-là.
Et ça, la RMN le voit clairement.
Oui, très bien. Les signatures des atomes, ce qu'on appelle les déplacements chimiques, elles bougent très peu ailleurs quand on enlève juste ce sulfate-là. L'effet est contenu, voilà. Mais un autre sucre important dans ces chaînes, c'est ça, l'acide hyaluronique, IDOA. Il est connu pour être flexible.
Exactement. L'IDOA, il est un peu spécial. Il peut basculer entre différentes formes, un peu comme une chaise qui peut se plier différemment. Et ça, c'est super important pour ses interactions avec les protéines.
Et comment la RMN arrive à voir cette flexibilité? Alors, là, on utilise une technique RMN spécifique, le NOESI. En gros, ça mesure à quelle distance sont les protons, les atomes d'hydrogène.
D'accord.
Et comme certaines distances changent quand l'IDOA bascule d'une forme à l'autre, disons entre la forme chaise et une forme plus tordue, la 2S0,
je vois.
On peut mesurer ça pour savoir combien de temps il passe dans chaque forme. Et ce que montre l'étude, c'est que la sulfatation en C6 du sucre voisin,
oui.
Eh bien, ça n'a quasiment aucun effet sur cet équilibre de l'IDOA, en tout cas dans les fragments qu'ils ont regardés. Sa flexibilité à lui n'est pas trop perturbée par ça.
Ok, donc ça confirme le côté très localisé de l'effet de cette sulfatation en C6. Mais l'étude va plus loin avec quelque chose de moins courant, non?
Remplacer l'oxygène de la liaison entre les sucres par du soufre.
Oui, la liaison O-glycosidique qui devient S-glycosidique. C'est ça. Alors, quelles conséquences ça a, ce changement qui paraît minime, un atome pour un autre?
Eh bien, là, figurez-vous que ça change pas mal de choses. C'est même un peu contre-intuitif. Souvent, on fait des analogues soufrés en espérant qu'ils imitent bien les naturels. Mais ici, non. Ces analogues, avec le soufre, y réagissent très différemment. On a vu que la sulfatation en C6 sur les sucres naturels avait un effet local.
Oui.
Eh bien, sur ces analogues soufrés, la même sulfatation en C6, elle provoque des changements de forme beaucoup plus larges qui se propagent jusqu'au sucre voisin, l'acide uronique.
Ah bon? Juste un atome qui change et l'effet devient global.
C'est ça. C'est assez frappant.
Et comment on explique ça?
L'hypothèse principale, c'est que ça vient des propriétés du soufre lui-même. Il est moins électronégatif que l'oxygène, il attire moins les électrons.
D'accord.
Et la liaison carbone-soufre est aussi un tout petit peu plus longue que carbone-oxygène. Ces petites différences suffiraient à modifier comment les forces se répartissent le long de la chaîne.
Fascinant.
Et d'autres mesures RMN le confirment, d'ailleurs. Ce qu'on appelle les constantes de couplage, qui donnent des infos sur les angles entre les liaisons, eh bien, elles montrent que la forme de l'anneau du sucre voisin et les angles au niveau de la liaison entre les sucres sont modifiés quand on passe de l'oxygène au sulfre.
Donc si je résume bien, des détails vraiment infimes, que ce soit la position exacte d'un sulfate ou le remplacement d'un seul atome d'oxygène par du soufre, ça peut vraiment changer la forme globale et la flexibilité de ces molécules.
C'est exactement ça. C'est la conclusion clé. Ces analogues avec du soufre, les S-glycosides, ce ne sont pas juste des copies conformes des sucres naturels oxygénés.
Ils sont différents.
Ils semblent pouvoir adopter des formes, des conformations, qui sont rares, voire peut-être même impossibles pour les hauts glycosides. Ils explorent un espace conformationnel différent, si on veut.
Et ça, ça ouvre quelle perspective? J'imagine que c'est intéressant d'avoir des molécules qui ressemblent au naturel, mais qui ont des formes un peu inédites.
Ah oui, tout à fait. C'est une sorte de nouvelle boîte à outils. Ça pourrait permettre de mieux comprendre comment les HS interagissent avec leurs partenaires, les protéines, en testant l'importance de telle ou telle forme.
Pour sonder les mécanismes.
Exactement. Et puis, bien sûr, ça ouvre potentiellement la voie à la conception de nouveaux médicaments, des molécules basées sur ces sucres modifiés qui pourraient soit imiter, soit bloquer certaines interactions biologiques de manière plus ciblée.
C'est vraiment fascinant de voir comment tout se joue à un niveau de détail moléculaire aussi subtil.
Absolument. Et ça laisse songeur, non? Si juste remplacer un oxygène par un soufre change autant les choses, on peut se demander quelles autres modifications chimiques, peut-être très discrètes, naturelles ou pas, de ces sucres complexes,
oui,
pourraient réguler des fonctions biologiques ou offrir des pistes thérapeutiques qu'on n'a même pas encore soupçonnées aujourd'hui.
Une question qui reste ouverte, effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Avec plaisir.